penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi en dialogue avec des enseignants de l'Institut catholique de Toulouse pour mieux comprendre et communiquer la foi chrétienne.
Bonjour Cyprien Comte.
Bonjour Jean-Michel.
Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse et que vous enseignez les prophètes à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Vous avez réalisé votre thèse d'ailleurs sur le prophète Jérémie, du moins sur un thème dont nous parlions la fois précédente, celui du repentir de Dieu. Alors nous allons aborder pour cette quatrième émission un thème dont vous me disiez hors micro que c'était extrêmement toulousain, puisqu'il s'agit de Jérémie 31 et même, peut-être même du verset 31, du chapitre 31 de Jérémie.
En effet, oui, un collègue prêtre qui est un Toulousain de Toulouse me disait, voilà sans doute le verset le plus toulousain de Jérémie. Qu'est-ce que c'est alors que la Nouvelle Alliance ? Enfin, en tout cas, bonjour à tous, hein, je suis très, très heureux de vous retrouver. Et alors c'est le texte qu'on connaît en général chez les chrétiens, issu du prophète Jérémie. Pourquoi ? Eh bien écoutez, on va le lire, c'est sans doute le mieux. Hein. Jérémie 31, donc versets 31 à 34. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront. » Des plus petits jusqu'au plus grand, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Alors le lecteur du Nouveau Testament a souvent tel ou tel mot dans l'oreille. Alors déjà, les gens qui lisent l'Épître aux Hébreux savent que c'est la plus longue citation, est-ce que c'est un prophète ou de tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau, par exemple dans la lettre aux Hébreux, chapitre 8, où on parle de la nouvelle alliance qui remplace l'ancienne qui est en train de disparaître. Alors même si, notamment dans le cas de nos relations avec le judaïsme, mais de tout cœur, hein, nous insistons un petit peu moins sur cette dimension que les premiers chrétiens peut-être, pour dire aussi qu'il y a une vraie continuité, nous savons que, en effet, quand on parle de nouvelle alliance, ça veut dire qu'il y a quelque chose à renouveler. Mais en fait, pourquoi est-ce que les auditeurs, notamment en monde chrétien, les auditeurs de la parole de Dieu, connaissent souvent ces versets ? Eh bien, on le dira tout à l'heure dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler du texte lui-même, si vous voulez.
Oui, volontiers.
Alors en fait, il s'agit d'une promesse dans l'avenir avec une formulation typiquement prophétique. Hein, « Voici venir des jours où, et c'est Dieu qui parle, je ferai ceci, je ferai cela. » Il parle de conclure une alliance. Alors les lecteurs de l'Ancien Testament savent très bien que dans l'hébreu, on dit « couper une alliance ». Mais bon, je laisse, peut-être c'est vous-même, hein, Jean-Michel, qui expliquerait cela en vous interviewant vous-même un de ces jours, en référence aux sacrifices anciens, hein, où on découpait les animaux. En tout cas, Dieu dit qu'il va conclure avec Israël et Juda, donc les deux royaumes, bien qu'à l'époque de Jérémie, autour de l'an 600, il n'y ait plus que un royaume, hein, Israël a disparu, il reste Juda, une alliance nouvelle. C'est une alliance qui va être différente, dit Dieu, et donc Jérémie retransmet ce message, de l'alliance conclue avec les pères. Pourquoi ? Parce que les pères, qui sont en fait les patriarches, ceux qui étaient à l'époque des grandes migrations entre, d'après ce que raconte la Bible, hein, la Chaldée, la Mésopotamie, jusqu'à l'Égypte, Canaan, l'installation en Canaan, on revoit l'histoire d'Israël en quelques instants, eh bien, ils ont été infidèles à l'alliance. C'est ce que Dieu dit ici dans ce texte. Et en effet, l'histoire d'Israël est une histoire d'alternance entre la fidélité et, bien souvent, il faut l'avouer, l'infidélité chez les patriarches, mais aussi chez les rois, et même les prophètes d'ailleurs. En fait, ici, Jérémie, et Dieu, par sa voix, fait référence à la sortie du pays d'Égypte. Donc c'est une alliance, et on pense à l'alliance du Sinaï notamment, qui a été rompue. Jérémie, dans le reste de sa prédication, rappelle souvent les prescriptions, pas toujours en le disant explicitement, mais les prescriptions de la loi de Moïse, en disant au peuple, vous voyez bien que vous avez été infidèle, que vous avez manqué au commandement que le Seigneur vous avait donné. Et puis on arrive au verset 33, je suis toujours dans Jérémie chapitre 31. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. » Et alors Dieu parle d'une alliance, Berit, qui, par certains côtés, est tout à fait nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus une alliance qui va être écrite sur des tables de pierre, mais Dieu dit « Je mettrai ma loi au fond de leur être et sur leur cœur je l'écrirai. » On a un joli chiasme ici en hébreu. En fait, en parlant de ce verset avec notre ami qui était ici, une dame de confession juive qu'on rencontrait souvent à l'Institut catholique.
Monique Lis-Cohen.
Voilà, Monique Lis-Cohen m'avait dit, mais en fait, il y a écrit ici, cette loi, je mettrai ma loi sur leur intestin. Be-kirbam, en hébreu. Et le kerev, effectivement, littéralement, c'est l'intestin. Donc il faut imaginer que Dieu n'écrit plus sur des tables de pierre, mais vraiment... sur les organes qui sont les plus internes, on parle aujourd'hui d'une médecine interne, n'est-ce pas, voilà. Et même sur leur cœur, je l'écrirai. C'est dire que cette loi, elle va être complètement intériorisée. Alors on a l'impression que ça n'est pas encore tout à fait le cas quand on regarde autour de nous, et d'ailleurs dans notre propre vie, il faut bien l'avouer. Mais c'est la promesse de Dieu. En quelque sorte, Jérémie, qui a d'abord prêché la conversion, puis qui a annoncé la ruine de Jérusalem et de Juda en disant « Mais en fait, vous ne voulez pas. » Et donc maintenant, il annonce un renouvellement total. On est dans les chapitres 30 et 31, qu'on appelle quelquefois le livret de la consolation, à l'intérieur du livre de Jérémie, où en fait, le Seigneur, sans contrepartie et sans préalable, va lui-même renouveler complètement l'intérieur du cœur des Israélites et certainement de tous ceux qui croient en la parole de Jérémie, on pourrait dire pour les chrétiens aujourd'hui, dans les paroles de l'Évangile.
Mais là, on est tout proche de l'esprit des ceux qu'on appelle les deutéronomistes, qu'on situe commençant à être actifs à l'époque de Josias, donc ce sont des contemporains hein, de Jérémie. Et il y a ce fameux Shema Israël, écoute Israël, Adonai, notre Dieu, Adonai est un. Et ce texte se poursuit en disant « Ces paroles que je te commande aujourd'hui, qu'elles soient sur ton cœur. »
C'est vrai qu'il était déjà question du cœur dans Deutéronome 6.
Mais en fait, on dit déjà, mais c'est peut-être contemporain, Jérémie.
C'est possible, c'est possible. En tout cas, il est tellement difficile hein, de situer l'écriture des livres bibliques et notamment prophétiques. C'est vraiment le sujet de travail de beaucoup de chercheurs actuellement. On travaille notamment sur les écoles et la manière de travailler des scribes. C'est assez intéressant. Et en effet, on considère souvent, même si cela aussi donne lieu à débat, que cette école dite deutéronomiste qui préside à la rédaction non seulement du Deutéronome, mais d'un certain nombre de textes de la Bible, ou en tout cas qui influence fortement la rédaction de ces livres, eh bien, a pu avoir une forte influence sur Jérémie aussi. Il y a une thèse, je crois, de Thiel, dans les années 70, qui parlait de la rédaction deutéronomiste de Jérémie. Donc on est, vous voyez, 50 ans après, à ne pas pouvoir nier encore vraiment l'influence qu'il y a. Et les collègues avec qui je travaille souvent sur le livre de Jérémie vraiment insistent aussi sur le lien entre les différents textes.
Donc mais c'est là où on peut dire qu'on est dans une période, donc avec Josias, on retrouve une certaine indépendance. C'est même politiquement, à un moment donné, il y a comme une belle éclaircie. On reconquiert un peu les territoires du Nord. Mais bon, rapidement, on va quand même se heurter à la puissance assyrienne et ça va aboutir donc à la destruction de Jérusalem, enfin, à la destruction du Temple et à la chute de Jérusalem. Et donc, on peut dire que tous ces mouvements-là dont nous parlons en ce moment, finalement, préparaient à passer d'une religion très axée sur les... pour faire bref, sur les monuments, une religion qui est basée sur le document... sur une parole, mais ce document qui est appelé à être intériorisé, si bien que cette parole, on pourra la porter partout et on pourra en vivre partout, qu'on soit à Jérusalem, au bord des fleuves de Babylone ou au nord de l'Égypte.
C'est vrai, et on a pu dire que la Bible était née à Babylone, mais c'est sans doute aussi pendant le temps de l'exil que les paroles reçues, y compris par les prophètes et par les anciens, les patriarches et toutes ces traditions, se sont cristallisées. Et est-ce qu'on les a mises par écrit à ce moment-là, ou est-ce qu'on a simplement constitué des textes? En tout cas, il semble bien que la période de l'exil à Babylone, donc je rappelle pour les auditeurs, hein, environ 587 à environ et à partir de 538, date de l'édit de Cyrus, hein, et la possibilité de retourner au pays, avec d'ailleurs de l'aide pour rebâtir le temple. Et en effet, les paroles divines vont conduire à la rédaction de rouleaux qui peut-être n'avaient pas du tout une forme comparable à ce que nous connaissons avant l'exil. Donc ce qui fait qu'en effet, la tragédie de l'exil va devenir comme le creuset où en quelque sorte les pépites d'or des paroles reçues et des traditions qui habitent les cœurs, eh bien, vont petit à petit prendre forme jusqu'à arriver encore sans doute bien plus tard, hein, à la forme que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est passionnant en effet.
Voilà, bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, cher Cyprien, sur ces sentiers avec Jérémie. Alors, il y a tant et tant à lire. Alors, si vous aviez à recommander maintenant encore un autre texte que nous n'aurons pas le temps de commenter, mais qu'est-ce que vous recommanderiez ?
Alors pardon, mais Jérémie, il faudrait en lire beaucoup, mais j'ai pas dit que c'est dans Luc 22 que Jésus parle de la nouvelle alliance. Et évidemment, c'est un texte qui est repris à chaque Eucharistie. Et donc c'est pour ça aussi que les chrétiens tiennent tant à ce texte-là. À vrai dire, il y a tant de richesses chez Jérémie que c'est... si on veut un épilogue historique, il est plutôt à la fin, effectivement. Je pense que c'est plus facile pour nous de commencer par le livre de la Consolation, Jérémie 30-31, puis peut-être les quelques chapitres qui suivent. Et aussi la promesse qui peut-être résonnera en cette période de crise, la promesse aussi d'une certaine stabilité pendant l'exil, dans Jérémie 29, la lettre de Jérémie.
Merci de toutes ces propositions. Donc, si on veut vous écouter en direct, eh bien, il faut venir à la faculté de théologie et suivre votre cours sur les prophètes.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Michel. Au revoir, chers auditeurs.
Voilà, au revoir.